Web Radio INA. Web Radio INA. Web Radio INA. Web Radio INA.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léo et c'est un plaisir de vous retrouver sur notre nouvelle Web Radio UNA, donc radio animée et donc par Héloïse, Erwan et moi, et encadrée par notre équipe technique Maxence, Jules et donc Mickaël. Je vais tout de suite laisser la parole à Héloïse qui va nous présenter et nous parler de l'UNA.
Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui c'était le salon de l'UNA, l'UNA qui est l'université numérique d'automne. Faut savoir que le salon, il a été mis en place il y a 4 ans par Guillaume Lyon, donc c'est la 4e édition du salon de l'UNA. C'est devenu un rendez-vous majeur du salon du numérique éducatif en France. Faut savoir que c'est le 5e salon de ce type en France. Les autres salons, c'est Educatis, Écritech, Ludovia et les Rencontres de l'Orme. Cette année, l'UNA a été organisée par le réseau Canopée, les rectorats de l'Académie de Dijon et de Besançon, ainsi que la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte d'Or. L'objectif de l'UNA est de surtout permettre à la communauté éducative, donc c'est-à-dire les enseignants et les futurs enseignants, de participer à des activités de présentation d'usage numérique. Je vais maintenant laisser la parole à Erwan, qui va nous faire le sommaire de l'émission.
Alors donc bonjour à tous, donc moi c'est Erwan et donc voici tout de suite le sommaire. Alors nous allons commencer par une interview du recteur de l'Académie de Besançon. Nous continuerons avec l'avis des différents professeurs sur le salon. Nous poursuivrons avec une interview de monsieur Panazol et de monsieur Barbet. Et pour terminer, vous aurez le droit à une interview de madame la rectrice de l'Académie de Dijon.
Et donc, sans attendre, nous allons passer à l'interview d'un invité de marque, puisqu'il s'agit de monsieur Jean-François Chanet, donc recteur de l'Académie de Besançon. Et bien maintenant, je suis avec monsieur Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon. Bonsoir, monsieur Chanet.
Bonsoir.
Alors, j'aimerais vous demander quelle place a le numérique au sein de l'éducation nationale ?
Une place de plus en plus grande et une place centrale, je dirais transversale, entre les disciplines, entre les degrés, et nous devons travailler, et c'est ce que nous faisons avec les collectivités, à ce qu'ils vous suivent dans votre parcours d'élève depuis la maternelle jusqu'à l'université.
D'accord, donc souhaitez-vous renforcer l'apprentissage par le numérique ?
Oui, ce qui signifie plusieurs choses. La première, c'est d'avoir de plus en plus de professeurs capables de bien utiliser le numérique, c'est-à-dire confiants dans leur propre capacité à s'en servir. Et quand je dis s'en servir, ce n'est pas nécessairement s'en servir d'une manière uniforme partout, faire la même chose. C'est s'en servir dans un projet pédagogique qui est et qui sera, je crois, de plus en plus construit avec les élèves, dans une interaction avec les élèves, parce qu'une des craintes, vous le savez, vous qui êtes bien en avance sur nous, les aînés, en matière de numérique, une des craintes des adultes, et des professeurs en particulier, c'est d'être dépassé, débordé, et de maîtriser moins bien que vous des outils dont on leur dit qu'ils sont indispensables à vos apprentissages, alors que vous avez su faire déjà votre propre appropriation. Donc, ce travail, il est nécessairement interactif, mais il suppose que vous admettiez aussi, que vous reconnaissiez au professeur une compétence irremplaçable par rapport à ce que vous pouvez tirer d'informations, de connaissances, des innombrables ressources du numérique. Donc c'est cet effort-là de compréhension réciproque, d'adhésion partagée à des objectifs fondamentaux qui sont ceux de l'enseignement, indépendamment du numérique, mais que le numérique doit permettre d'atteindre mieux qu'avant, c'est-à-dire pour tout le monde. Si vous voulez, moi, l'idée qui me tient à cœur, c'est celle de la fracture. Je ne voudrais pas, on a beaucoup parlé de fracture sociale, de fracture territoriale, on parle aussi de fracture numérique, je ne voudrais pas que l'accessibilité inégale du numérique, géographique et sociale, soit une cause supplémentaire de retard de l'école ou de difficulté pour l'école à réduire les effets des inégalités sociales. Le but que tout le monde aujourd'hui reconnaît comme premier dans les apprentissages scolaires, c'est de réduire les inégalités, d'obtenir que ceux qui sont les plus démunis à l'entrée dans la vie puissent, par l'école, avoir les mêmes chances que les autres. Eh bien, ça suppose que le numérique y contribue, ce qui veut dire qu'il y a un tas de conséquences, en particulier sur le territoire. Il faut que dans les petits villages, il y ait une égale accessibilité aux outils numériques par rapport aux grandes villes.
D'accord, parce que c'est vrai que c'est un vrai paradoxe. Du coup, c'est des enseignants qui doivent apprendre en fait à utiliser le numérique avant de pouvoir nous l'enseigner. Donc, est-ce qu'il y a des stages de formation comme ça qui existent ?
Alors, quand vous dites apprendre à vous l'enseigner, vous faites allusion à, et avec raison, à un enseignement du numérique. Ça, c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est effectivement importante et qui va se développer. C'est un des enjeux de la réforme du baccalauréat et de la réforme du lycée. C'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant une spécialité autour du numérique, ce qui suppose des professeurs effectivement capables de l'enseigner, des programmes qui vont être écrits, qui sont en cours d'écriture et que nous connaîtrons à la fin de l'année civile. Et plus globalement, si on remonte en amont de la scolarité, ça suppose en effet d'avoir des professeurs en technologie ou dans d'autres disciplines qui aient une connaissance technique suffisante du numérique pour pouvoir enseigner effectivement le numérique. Mais autre chose est d'enseigner avec le numérique, de mettre le numérique au service d'apprentissage disciplinaire ou pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, que ce soit les langues vivantes, que ce soit les sciences naturelles ou autres. Enfin, vous voyez. Et là, c'est une question, effectivement, d'appropriation des outils et des ressources qui sont innombrables. Il y a une offre considérable sur le marché où les enseignants doivent pouvoir faire leur choix de façon éclairée pour être le plus en accord possible avec le besoin qu'ils ressentent chez les élèves. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure donne à penser que les besoins ne sont pas identiques sur tout le territoire. Et donc il ne servirait à rien de se dire que tout le monde doit avoir le même type d'approche du numérique partout, car ça correspond à des réalités territoriales et sociales différentes et culturelles différentes.
Ben c'est vrai d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, admettons d'ici 2030, que une majorité des enseignants pourront utiliser le numérique pour enseigner ?
Oui, je le crois, oui. Actuellement, ce sont chaque année des centaines et des milliers, rien qu'à l'échelle de notre territoire de Bourgogne-Franche-Comté, d'enseignants qui sont formés soit en formation initiale dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation, soit en formation continue. Donc il y a un très gros effort grâce aux partenaires du CLEMI que sont les délégations numériques et éducatifs, un gros effort de formation continue. Et avec le renouvellement des générations de professeurs, en 2030, vous pourriez tous les trois, si vous en aviez l'envie et le goût, être professeur. Et ces professeurs-là, ceux de votre génération, eh bien, ils auront un accès plus immédiat au numérique que leurs prédécesseurs. Donc, vous voyez, si vous faites converger l'acculturation générationnelle avec l'effort de l'institution, on devrait aboutir.
C'est vrai, mais est-ce que vous pensez qu'on peut tout faire avec le numérique, ou justement est-ce qu'on doit imposer à un moment ou à un autre une barrière ?
Oui, sûrement, parce qu'il y a des utilisations qui sont contraires aux objectifs fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, si vous faites par là allusion à l'interdiction des téléphones portables dans les collèges, c'est tout le sens de cette mesure qui n'interdit pas, comme vous le savez, qu'il puisse y avoir des usages pédagogiques, raisonnés, justifiés, explicités du téléphone portable pour les apprentissages. Mais nous savons bien que les ressources qu'offrent ces appareils pour faire des photos, pour envoyer sur les réseaux sociaux des mensonges, des calomnies, etc., qui peuvent relever du harcèlement scolaire, que par ailleurs nous combattons, il serait paradoxal que nous laissions utiliser une arme de quelque chose que nous combattons, pour quelque chose que nous combattons. Donc soyons cohérents, j'ai envie de dire. Derrière une mesure comme celle-là, il y a quelque chose peut-être de plus global et qui ne va pas de soi, mais qui est pourtant traditionnellement dans l'esprit de l'éducation nationale, c'est qu'à travers les enfants, on éduque aussi les parents. Et je suis frappé, moi, d'entendre de plus en plus de témoignages d'enfants qui disent qu'ils ont du mal à communiquer avec leurs parents parce que les plus en addiction ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Et qu'on a des adultes qui finissent par ne plus communiquer parce qu'ils sont totalement, eux aussi, soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur, soit sur une tablette. Et donc, il n'est pas mauvais, me semble-t-il, de faire réfléchir aussi les adultes aux usages qu'ils font du numérique, puisqu'ils se plaignent que leurs enfants soient tout le temps dépendants du numérique. C'est un travail de coéducation dans l'esprit de ce que doit être l'éducation nationale.
D'accord. Alors, on va complètement changer de sujet, mais enfin, est-ce que vous pensez que ce média, que la web radio, peut favoriser l'apprentissage et ouvrir de nouvelles perspectives sur le numérique ?
Certainement. La radio, d'une manière générale, c'est un média qui m'a toujours particulièrement intéressé parce que il me semble qu'on y consacre plus de temps à la réflexion, qu'on est moins dans l'instantanéité, que paradoxalement, alors qu'elle a précédé la télévision, chronologiquement, elle est restée plus que la télévision un lieu où on se donne le temps d'ouvrir des réflexions et de les conduire. Le temps radiophonique n'est pas le même que le temps visuel. Et par ailleurs, il est probablement plus difficile d'émouvoir, de jouer sur l'affect de façon exclusive avec des sons qu'avec des images. Et une des choses dont nous avons besoin, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de remettre de la raison et du raisonnement là où il y a une sorte d'empire de l'affect. Bien sûr qu'il est, il est très important de prendre conscience d'un certain nombre de problèmes majeurs de notre monde par l'émotion. Mais l'émotion, elle est souvent immédiate et chassée par une autre. Alors que on a besoin d'une réflexion pour nourrir des efforts qui s'inscrivent dans une certaine durée. Lorsque je veux réfléchir et que le temps de lire me manque, je me retourne plus facilement vers la radio que vers la télévision.
Et donc, pour terminer, avant d'être recteur, vous avez été chercheur, puis prof d'histoire. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous utilisiez le numérique ?
Oui, oui. Mon travail a été transformé entre mes premiers travaux et les derniers, et ceux que font mes élèves, puisque j'ai encore des étudiants qui font des thèses. Le travail de recherche s'est complètement transformé. C'est même vertigineux, parce que j'ai commencé avec la machine à écrire. Je tapais mon mémoire de maîtrise à la machine à écrire. J'allais aux archives parce que c'était la seule façon d'accéder aux documents. Alors que maintenant, il y en a des milliers, des millions qui sont numérisés, avec peut-être ce risque d'ailleurs qu'on peut à la rigueur conduire une recherche devant un écran d'ordinateur, parce qu'il y a tant de sources qui sont, dans ma discipline en tout cas, qui sont accessibles par ce moyen. Mais les avantages l'emportent de beaucoup sur les inconvénients, parce que l'ordinateur permet aussi une chose que l'on avait plus de mal à faire, qui est le croisement des sources. Le caractère de liaison que le numérique permet, de liaison immédiate. Quand vous voyez ce qui a été fait autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, par exemple, le fait, la saisie de tous les noms des poilus que l'on a retrouvés, et quand vous allez cliquer sur le lien, vous avez tout un dossier qui peut renvoyer lui-même à d'autres références, à de la bibliographie. Enfin, c'est un outil exceptionnel. Et il y a des documents qui ont été, ça aussi, c'est, je trouve, un enseignement très, très profond de la mobilisation mémorielle qui s'est produite à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, que les familles ont donné. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une saisie numérique d'archives privées, d'archives familiales, qui ont été mises par les familles à la disposition des chercheurs, au même titre désormais, avec la même accessibilité que des archives publiques qui sont conservées dans les archives départementales ou les archives des villes. Donc ça a complètement changé la frontière entre le public et le privé.
Alors, j'aimerais juste terminer sur cette petite question, parce que c'est vrai que c'est souvent les parents qui ont une crainte. Est-ce que le fait d'apprendre avec le numérique, ça ne va pas justement causer un peu de l'addiction en plus ?
Nous en parlions tout à l'heure. Je crois que l'addiction, elle se produit en dehors de l'apprentissage, en dehors de l'espace scolaire. L'espace scolaire peut permettre de la faire reculer par la raison et par le travail. Ce que le numérique peut permettre, moi je voudrais positiver les choses. Je crois que le numérique, pour peu qu'on sache bien l'utiliser, ajoute peut-être pour votre génération et les suivantes une dimension de plaisir, d'envie d'apprendre. Je crois que pour un pédagogue, le plus important, c'est ça. C'est de sentir chez les élèves l'envie d'apprendre, l'envie. Le plus important, ce n'est pas ce qu'ils vont apprendre, c'est qu'ils en aient l'envie. Et pour peu qu'on sache bien utiliser le numérique, c'est un formidable démultiplicateur de l'attrait de ce qu'il faut apprendre pour réussir professionnellement et pour réussir sa vie, tout simplement.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, M. Chanet, M. le recteur. Merci. Un vrai plaisir d'avoir pu vous interviewer. Merci beaucoup.
Merci à vous. Ouais.
Et donc, pendant le salon de l'UNA, je suis donc allé dans le salon enquêter auprès des professeurs pour leur poser quelques questions. J'ai donc déjà, pour commencer, posé une question concernant le partage avec les élèves face au numérique.
C'est, pour moi, pour le moment, je l'utilise comme un support, pas comme une nouvelle façon d'apprendre. Mais par contre, les enfants, oui, sont plus doués que nous et du coup, je pense que pour eux, c'est une nouvelle façon d'apprendre.
Mais je suis d'accord sur l'idée où il peut y avoir un partage. C'est-à-dire que maintenant, dans tout ce qui concerne le monde numérique, ça va extrêmement vite. Là, je viens de sortir d'une conférence sur Minecraft, qui est pourtant de mon époque, mais je ne connaissais pas du tout. Et les élèves sont plus au fait, sont mieux informés que moi sur certains sujets en ce qui concerne le numérique. Donc ça peut être parfaitement... les élèves peuvent m'apprendre comme moi je peux leur apprendre tout ce qui concerne la pédagogie, etc. Donc c'est vraiment c'est une très bonne idée. Ouais.
J'ai aussi eu la chance donc de demander à d'autres enseignants pourquoi ils sont venus au salon de l'UNA.
Ben, ils vont me permettre de diversifier beaucoup et puis apporter aussi une certaine attractivité aux activités. Ben, je l'utilise déjà, mais le salon me sert à voir quels sont les nouveaux outils ou même à me convaincre de l'utilisation d'outils déjà existants mais que moi je n'utilise pas.
Alors j'essaye de trouver des idées concrètes à mettre en place rapidement en classe, à comprendre aussi l'intérêt du numérique dans le numérique éducatif. Donc pas simplement l'utilisation de tablettes pour utiliser la tablette ou d'applications pour utiliser les applis, mais trouver des applications qui soient plutôt polyvalente et qui me permettent avec une application de pouvoir faire aussi bien des maths, du français, de la musique reliée, faire des projets, que ça ait du sens pour les enfants, les élèves, pour qu'ils puissent vraiment être créateurs, concepteurs dans leur travail, dans leurs apprentissages grâce à l'outil numérique et que je sois un médiateur au milieu de tout ça.
Donc on enchaîne maintenant avec l'interview de Jean-Marie Panazol. Donc Jean-Marie Panazol, c'est le directeur général du réseau Canopé. Je vais vous laisser écouter son interview, il nous en dira un petit peu plus sur Canopé.
Et donc je vous reprends sur Radio UNA et je suis avec monsieur Jean-Marie Panazol, directeur général du réseau Canopé. Bonsoir monsieur Panazol.
Bonjour.
Alors j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est Canopé au final ?
Ah, c'est une bonne question. Réseau Canopé, c'est un établissement public qui est donc placé sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et qui regroupe 1600 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, donc dans 101 ateliers Canopé, un par département, et qui a pour mission d'accompagner les enseignants dans leur activité quotidienne en leur fournissant des ressources pédagogiques, des services, de la médiation, des plateformes aussi de collaboration, de travail, de production de ressources, de présentation de ressources pour leur permettre tout simplement de réaliser leur métier, c'est-à-dire de former les jeunes, quel que soit leur niveau, premier ou second degré.
D'accord. Et quelle est votre relation avec le CLEMI au final ?
Alors le CLEMI est une entité de Réseau Canopé puisque effectivement dans l'émission de Réseau Canopée, nous avons également l'éducation aux médias et à l'information. Et cette thématique est assurée notamment par le CLEMI.
D'accord. Alors, pourquoi est-ce que le Réseau Canopée a été formé, créé ?
Alors, à l'origine, Réseau Canopée était un éditeur public, c'est-à-dire que nous avions pour mission de fabriquer des ressources pédagogiques qui, historiquement, étaient essentiellement des ressources papier. Donc, nous concevions des ressources pédagogiques sous forme papier. Ça, c'est l'ancien temps. C'était avant la révolution Canopée, puisque depuis 4 ans, nous sommes profondément transformés et nous avons investi le champ du numérique éducatif et nous produisons maintenant, bien sûr, nous continuons à produire des ressources papier, donc des livres ou des ressources pédagogiques sous forme de revues, mais nous produisons des ressources numériques et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la co-construction, la co-organisation de cette manifestation de l'UNA avec les services de la DAN des deux rectorats, de Dijon et de Besançon, mais aussi de l'université, mais aussi des ESP, pour permettre aux enseignants d'avoir cette journée d'échange, de pratique sur les questions du numérique éducatif.
D'accord. Eh bien, parce que Réseau Canopée, comme vous l'avez dit, existe depuis combien de temps ?
Alors, Réseau Canopée, au sens strict, existe depuis 4 ans.
D'accord, donc depuis que l'ère du numérique a débarqué, c'est ça ?
C'est-à-dire que depuis que le ministère a confié à Réseau Canopée la mission de développer le numérique éducatif.
Ouais. D'accord. Alors, où est-ce qu'il y a un siège au Réseau Canopée ? Est-ce que vous êtes établi quelque part bien précisément ?
Ah oui, bien évidemment. On va dire que le siège de Réseau Canopée est à Chasseneuil-du-Poitou, mais c'est un réseau, encore une fois. Et je ne parle jamais d'ailleurs de maison mère, hein, je parle d'un centre qui regroupe la direction générale et des directions métiers, des directions des fonctions support. Mais le Réseau Canopée, en fait, est implanté sur l'ensemble du territoire. Hein, nous avons des implantations donc sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi outre-mer.
Alors, d'où ça vient Canopée, en fait ? Pourquoi avoir... Comment formuler cette question ? Qui a eu l'idée de Canopée ?
Le mot Canopée, voilà. Vous savez, la canopée, c'est un espace interstitiel. Hein, c'est entre le ciel et la terre. Hein, c'est le sommet des arbres. C'est là où on a découvert, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait une vie propre, hein, au sommet des arbres, et qui était ce lieu intermédiaire entre le sol, la terre, et l'air, l'espace, l'immensité. C'est l'idée qu'il y a derrière Canopée. Hein, c'est-à-dire que le Canopée, c'est vraiment un réseau qui se situe à la convergence de multiples acteurs, hein, dans la communauté éducative. C'est bien sûr le ministère et ses représentants, les rectorats dans les territoires, mais c'est aussi les collectivités territoriales, c'est aussi les laboratoires de recherche, les universités, c'est aussi, si on regarde les personnes, à la convergence des pratiques, des usages, des enseignants, des parents, des élèves, bref, de toute une série d'acteurs, les acteurs de l'éducation populaire, les associations du périscolaire. C'est ça l'idée qu'il y a derrière Canopée. C'est un passeur, un accélérateur de particules, hein, qui est là pour mettre en relation différents acteurs, pour être un lien entre différents univers. Voilà, c'est l'image de Canopée, cet espace interstitiel entre le ciel et la terre. C'est ça l'idée de Canopée.
D'accord, parce que vous nous l'avez dit, hein, c'est grâce au numérique, ça a été complètement bouleversé, en fait, ce fait les ressources qu'on emmagasine, parce qu'au final, c'est ça, Canopée. Comment ça a pu bouleverser, comment le numérique est arrivé sur Canopée, sur le réseau Canopée ? Comment il a joué ? Quel impact il a eu ?
Alors, si on voulait redire autrement les missions de Réseau Canopée, c'est d'être en permanence à l'écoute des usages des enseignants. Et donc à partir de là, à partir du moment où le numérique fait irruption dans la classe et où le numérique est beaucoup plus qu'une question d'outils, d'une question de technologie, est-ce que c'est la bonne version du logiciel, de l'ordinateur, etc., mais change les pratiques pédagogiques et va au fond de la relation entre l'enseignant et l'élève, hein, et des élèves entre eux et des enseignants entre eux d'ailleurs, et donc bouleverse les paradigmes de l'enseignement, eh bien nous devions d'y être. Voilà, c'est une question stratégique essentielle. Je dirais qu'ensuite, À partir de là, quand on prend conscience qu'effectivement le numérique n'est pas une question d'outils, de technologie, mais une question qui renvoie à des questions pédagogiques fondamentales, eh bien, Réseau Canopée se devait d'expérimenter, de produire des ressources, d'être au travers de l'agence des usages à l'écoute des pratiques des enseignants et surtout en capacité de mesurer les résultats de l'usage du numérique dans la classe. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement pour se faire plaisir de dire « Ah, j'utilise tel outil, immersion 3D, nouveau TBI ou je ne sais pas quoi », et puis considérer que voilà, on a réglé le problème parce qu'on a eu, encore faut-il mesurer l'impact sur les apprentissages, mesurer les effets sur l'amélioration des résultats pédagogiques, des résultats des élèves et donc des pratiques pédagogiques. Et ça, c'est aussi une de nos missions, que d'être en capacité, bien sûr d'innover, bien sûr d'expérimenter, mais aussi d'avoir un retour sur les effets dans la classe. Et c'est ce que nous avons au travers de l'agence des usages qui, bonhomme à l'an, interview ou suit à peu près 18 000 enseignants par an.
D'accord. Et donc, justement, selon vous, quel effet le numérique apporte-t-il à l'enseignement en général ?
Alors, là, c'est une question qui est extrêmement complexe parce que souvent, quand on évoque les résultats des élèves, on a tendance à avoir une vision macro. C'est-à-dire, on se dit on a X% des élèves qui apprennent mieux, on a Y% des élèves qui améliorent leurs résultats dans les scores PISA, etc., etc. Ça, c'est très compliqué et on ne pourra véritablement le mesurer que lorsqu'on aura un degré de banalisation des usages numériques qui soit tel qu'on puisse mesurer statistiquement les effets. Pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le numérique permet une avancée très importante. Et là, on est vraiment au cœur de l'évolution des pratiques pédagogiques. C'est l'individualisation des formations. Lorsqu'on met à disposition d'un groupe d'élèves, un outil qui lui permet d'avancer à son rythme, de se tester par rapport à des connaissances, de revenir lorsqu'il a fait des erreurs, de progresser sans se poser la question de savoir où en est l'ensemble de la classe, hein, et de se dire « Ah mince, je suis en retard » ou « Mince, je suis en avance et qu'est-ce que je fais maintenant ?» Mais dans un apprentissage, dans un rythme d'apprentissage qui est le plus individualisé possible, eh bien là, on a déjà une avancée qui est attesté, qui est réel. Et c'est ce que permet, effectivement, c'est ce que permettent les outils numériques lorsqu'ils sont maîtrisés par les enseignants.
D'accord, merci Monsieur Panazol, donc, qui, je le rappelle, est directeur général et donc par conséquent national du réseau Canopée. Je vous remercie vraiment car c'est grâce à vous aussi que, enfin en partie grâce à vous que tout cela existe et que même cette web radio est possible. Alors là, merci beaucoup.
Mais écoutez, merci à vous pour cet échange. Je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier l'ensemble des équipes, des organisateurs effectivement, mais surtout vous féliciter vous pour cette expérience que vous vivez. Vous êtes là, vous, intervieweur, vous êtes mixeur, vous êtes animateur, chroniqueur, programmateur musical, superviseur, enfin, et vous découvrez ces métiers de la formation. C'est une des missions aussi de Réseau Canopée que de travailler avec les enseignants, mais surtout avec les jeunes, sur cette question de l'éducation aux médias et à l'information. On est dans un monde aujourd'hui où on parle beaucoup plus de surinformation. Hein. On a même créé des termes pour cela. On parle d'info-obésité, c'est-à-dire et donc d'une difficulté pour les, très très clair pour les jeunes qui sont, quel que soit leur niveau, de discerner dans l'information ce qui est une information pertinente, vérifiée, de ce qui est une fake news, de ce qui est une fausse information. Quand on voit que sur Internet, certains sont capables de défendre l'idée que la Terre est plate ou que les chambres à gaz n'ont pas existé, on peut comprendre qu'on a un vrai problème de traitement de l'information. Et donc le travail que vous faites est particulièrement essentiel et particulièrement important dans le cadre de votre formation citoyenne pour effectivement être en capacité aujourd'hui de distinguer dans ce monde surinformé le vrai du faux et d'analyser, de prendre le recul nécessaire. Donc j'espère que vous vivez un beau moment et que d'autres de vos camarades auront l'occasion de le faire, et je souhaite que cette cette expérience que vous vivez aujourd'hui puisse être généralisée dans l'ensemble des établissements scolaires.
Bien, je souhaite à tous mes collègues et mes camarades de pouvoir justement avoir l'occasion d'animer et de pouvoir participer à cette expérience. Merci beaucoup, Monsieur Panas.
Merci encore à vous.
Alors maintenant, je vais vous lire un texte que nous a écrit Michael sur deux stands qu'il y avait donc au salon de Luna. Alors le premier s'appelle Tabuléo. Alors c'est un fabricant de manuels scolaires numériques qui a une application qui regroupe les applications donc d'éditeurs qui publient leurs manuels. Donc ça permet aux enseignants de pouvoir récupérer les manuels en version numérique et donc de pouvoir les projeter sur un écran. Et donc ils peuvent aussi les télécharger pour les utiliser hors connexion. Le deuxième est Distributis. Donc c'est une marque française qui a une exclusivité qui permet de fabriquer donc des écrans tactiles en région parisienne. Donc ces écrans tactiles permettent d'améliorer l'apprentissage du numérique dans tout type d'établissement, que ce soit du niveau CP à l'université.
Maintenant, nous allons écouter la dernière interview de cette web radio. Donc il s'agit de Frédérique Alexandre Bailly, la rectrice de l'Académie de Dijon. Elle nous parlera un petit peu du numérique dans l'éducation.
Voilà, j'aimerais vous demander quel est votre rôle en tant que rectrice dans la mise en place de l'UNA.
Vous avez vu, mon rôle, ça consiste à venir inaugurer le matin, faire des discours. Mais à vrai dire, je ne fais pas grand-chose parce que c'est piloté de main de maître par nos deux Dan et par Canopé.
Quelles sont les répercussions du numérique au sein de l'éducation ?
La question du numérique, c'est la question de la coupure qui peut exister entre le développement de pratiques que chaque acteur a en privé, à commencer par les enseignants et les élèves, et puis l'impact que ces pratiques peuvent avoir dans la classe et dans la façon d'apprendre. On a des enseignants, par exemple, qui se sont emparés, sans attendre des politiques officielles, de tas d'outils numériques qui existent et qui sont partagés sur le web pour pouvoir travailler autrement avec leurs élèves, disposer de d'illustrations, de sites où envoyer les élèves pour travailler. La question qui se pose pour nous en tant qu'éducation nationale, c'est que si on n'encourage pas et qu'on n'encadre pas et qu'on ne forme pas, alors la formation par le numérique et au numérique des élèves dépend du hasard, en fait, des enseignants qu'ils rencontrent et du bon vouloir de ces enseignants-là. Et on a à organiser ça.
D'accord. Donc si je ne m'abuse, vous mettez en place un projet académique de 4 ans. Alors, quelle place le numérique a-t-il dans votre projet ?
Alors, le numérique, il est partout dans le projet. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, dans le premier axe, qui est l'axe qui concerne les apprentissages et la réussite, on a toute l'utilisation du numérique éducatif pour faciliter les apprentissages, pour permettre, par exemple, la différenciation, tous les élèves puissent automatiser chacun à leur rythme les différentes choses qu'ils doivent apprendre. Donc là, on a une situation du numérique éducatif.
Et pour terminer, est-ce qu'apprendre via le numérique, c'est efficace selon vous ?
Alors, on ne peut pas répondre par oui ou par non. On sait par exemple que les MOOC ne sont pas efficaces tout seuls. On sait que ça ne fonctionne pas. On y a cru à un moment, et puis maintenant on a la preuve que non. On sait que pour que le numérique soit efficace, il faut d'abord qu'il ait été bien fait. Donc scénariser un cours en numérique, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail que scénariser un cours, parce que quand vous êtes en cours en face à face, vous adaptez. Vous voyez bien ce qui est compris, ce qui n'est pas compris. Il y a des questions, il y a la tête des élèves qui disent où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont en train de regarder le plafond, ou est-ce qu'ils ont compris. Quand vous préparez un cours qui va être diffusé sur le web, il faut tout prévoir et il faut accompagner d'interactions réelles. Donc ça peut être des questions par un chat à côté, ça peut être des moments où on peut poser des questions et discuter, etc. Et donc on est déjà dans du numérique qui est hybride. Et puis on sait par ailleurs que, par exemple en formation continue, le tout numérique ne suffit pas, il faut que les gens puissent se rencontrer pour construire aussi leur prise de distance par rapport à leur situation.
Et donc on a entendu des personnalités donc, nous donner leur point de vue et leur avis sur le numérique. Et donc, déjà, moi, je pense personnellement que, clairement, ça, on ne va pas se mentir, c'est pratique, le numérique, du moment qu'on n'est pas esclave, justement, du numérique. J'aimerais savoir, Héloïse, ce que tu en penses.
Je suis d'accord avec toi, c'est très pratique, le temps qu'on n'en devient pas esclave. Mais moi, en tant qu'élève, dans mon utilisation, quand les profs ils nous envoient sur ordinateur faire des recherches ou des trucs comme ça, franchement, je suis vachement pas pour, vu que je sais très bien que je préfère faire des jeux plutôt que faire les recherches que les professeurs nous demandent. Du coup, le numérique dans l'apprentissage, je ne suis pas forcément pour. Je ne vois pas vraiment l'utilité. Autant revenir aux méthodes classiques avec un prof qui anime correctement un cours et avec une feuille, un papier, on écrit son cours.
Et toi, Erwan ?
Eh bien, moi, étant donc en bac pro système numérique, c'est déjà un outil de travail pour moi. Donc, oui, je suis plutôt pour le numérique. Alors, évidemment, comme tu le disais, Léo, en plaçant des barrières, ça ne doit pas devenir un jeu. Ça doit être utilisé vraiment dans une cadre d'une formation ou d'un enseignement. Donc voilà, comme moi, je peux très bien l'utiliser pour différents TP, travaux pratiques. Voilà, le numérique, nos profs nous incitent à utiliser l'ordinateur pour faire des recherches ou le téléphone, ainsi qu'utiliser différentes iPads, tablettes pour pouvoir contrôler certains logiciels. Donc oui, personnellement, je suis pour le numérique à l'école.
Alors juste pour rebondir sur ce que tu as dit, donc il y a des jeux pédagogiques en fait qui sont utilisés, donc toujours par l'intermédiaire du numérique. Alors donc c'est ça, c'est pas jouer à des jeux qui sont en dehors, ou du moins y jouer pendant nos temps libres, et donc pas s'en servir à l'école.
Tout à
et
fait,
donc,
oui.
Au lycée, voilà. Et écoutez, merci à vous de m'avoir donné votre point de vue, et puis merci à toutes les personnalités qui nous ont aidés et donc fourni de précieux renseignements.
Web Radio Ina. Web Radio Ina. Web Radio Ina. Web Radio Ina.